Quand elle était petite, Karine rêvait d'être militaire, comme son papa. Et puis finalement, elle a choisi le rose plutôt que le kaki. Après un bref passage en fac de psycho, elle entame un BTS en cosmétique esthétique et découvre sa vocation lors d'un stage à l'Opéra d'Avignon. Elle sera maquilleuse. Mais une maquilleuse pas comme les autres. Petit à petit, son savoir-faire et son art, Karine le met au service de ceux dont le visage a souffert. Eczéma, psoriasis, brûlure, cancer. Karine apprend à celles qui ont perdu le goût d'elles-mêmes à retrouver l'estime de soi et à se réconcilier avec une image mise à mal. C'est l'histoire d'une femme qui a choisi l'empathie et qui, chaque jour, révèle à ceux et celles qui n'y croyaient plus la beauté de leur visage. Alors, bonjour Karine.
Bonjour Caroline.
Merci d'être là et de répondre à mes questions et de nous raconter un peu ton histoire.
Bah, c'est surtout moi qui suis flattée d'être avec vous. Merci de cet intérêt porté.
Et donc, peut-être que tu pourrais commencer un peu par nous raconter justement ton histoire, ce qui t'a menée au métier de maquilleuse. Et ce qui a ensuite un peu transformé ton métier de maquilleuse pour le diriger vers les personnes qui ont un visage qui a souffert, en fait. Comment ça a commencé, tout ça ?
Ouais, c'est un parcours qui est un peu atypique, au final, parce que, bah, en fait, j'ai envie de dire, comme beaucoup de parcours, il faut trouver le moment pour recoudre un peu toutes ces expériences que l'on a faites. Et quand on est jeune, c'est vrai qu'on a tendance un peu à tout aimer, à vouloir tout faire. Et je pense que c'est avec la maturité qu'on arrive à se dire que les choses sont pas faites au hasard et qu'on arrive après à faire une synthèse de tout ça. Mais je pense que concrètement, on a ça en soi déjà dès le départ, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, on n'a pas tous les moyens pour exprimer ce que l'on est vraiment. Et donc, du coup, on se cherche un peu. Alors, mon parcours est un peu atypique parce que je pensais effectivement être plus dans l'armée. Alors, effectivement, déterminé par un environnement, en aucun cas une contrainte. Hein, c'était peut-être aussi le fantasme du militaire, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je pensais faire. Et finalement, j'ai suivi une voie très classique. Hein, j'ai passé mon bac et je me suis, comme tous les étudiants à ce moment-là, demandé ce que j'allais faire. J'étais assez reconnue pour ma bonhomie et ma joie de vivre. Et c'est vrai que finalement, ma mère est un peu comme ça aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on cultive, le côté empathique. Et c'est un peu naturellement que je me suis tournée vers la psycho sans vraiment savoir ce que j'en ferais. Mais je me suis dit, je suis jeune, je verrai bien. Et puis, bel apprentissage, parce que j'ai fait mes études en dehors de ma ville d'origine. Je suis avignonnaise. Je suis partie à Montpellier. Et puis, c'était surtout la belle vie, hein. Donc, première étape numéro 1, arrêter de papillonner et d'aller réviser sur la plage, parce que finalement, ça n'a pas réussi, quelque part. Vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon truc et qu'il fallait effectivement aussi que j'écoute un petit peu cette voix intérieure. J'adorais dessiner. Mon père, d'ailleurs, était un artiste aussi un peu dans l'âme, il était ébéniste aussi, menuisier, et il aurait aimé être coiffeur d'ailleurs, et donc il aimait beaucoup dessiner, et je pense que c'est de lui, ça revient, c'est là, et le dessin, c'est aussi quelque chose qui me plaisait bien. Et du coup, sortie de ce questionnement universitaire, qu'est-ce que je vais faire de moi ? Moi qui avais fait un bac scientifique, et pas du tout scientifique, au contraire, littéraire, et très éloignée du scientifique, en fait, je me suis retrouvée à être sensibilisée par un BTS de cosmétique où la science était prépondérante. Donc, j'ai fait une petite année de prépa en physique-chimie pour me remettre à niveau. J'ai intégré un BTS de cosmétique et en fait, j'ai fait divers stages qui étaient liés à cette formation. Et il me restait un tout petit stage à faire. Et là, la magie a opéré, en fait, puisque j'ai fait un stage à l'Opéra d'Avignon. Et ce stage a duré 2 ans, en réalité, parce que j'avais trouvé là enfin une synthèse étonnante entre le théâtre, cette aide à la métamorphose en fait, cette recherche psychologique des personnages et ce moyen de le traduire par la couleur en fait et les contrastes. Et là je me suis dit c'est ça que je veux faire.
T'avais commencé à coudre un peu ton patchwork.
Exactement. Et alors ça c'est donc une partie sur le parti artistique et en fait il y a un parallèle qui se fait avec ça qui est déterminant aujourd'hui pour mon activité actuelle. C'est que j'ai finalement gardé mes contacts de fac de psycho et des élèves beaucoup plus assidus qui sont allés beaucoup plus loin que moi et qui aujourd'hui d'ailleurs excellent dans cet univers-là, mais qui ont gardé des liens avec moi et qui m'ont fait prendre part à cette première empathie. Mais encore une fois, c'est encore tellement un travail pour arriver à cette empathie et la gérer, que j'étais plutôt dans la compassion et j'étais plutôt terrorisée aussi par l'univers dans lequel on me faisait rentrer. J'ai participé à des projets, en fait, hein, comme les étudiants ont à faire, à mener un projet alors en milieu carcéral, centre pénitentiaire pour femmes et dans les CAT, et où l'hygiène et l'estime de soi, effectivement, étaient aussi déjà au cœur du sujet. Alors, je parle de ça, on était en 96, donc c'est pas nouveau. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à avoir cette première expérience, pas du tout préparée. J'avais 21 ans, quoi. Et je me suis dit, je prenais tous les tocs. J'ai pensé que j'allais avec ma mallette, que j'allais maquiller. Et on m'a tout de suite dit, non, mais déjà, Karine, il va y avoir un psychiatre, un psychologue. Tu vas pas arriver avec des objets métalliques, tu vas pas leur faire les sourcils. Et il y a une prise en charge qui est surtout sur l'hygiène, parce que j'ai appris aussi comme ça que quand il y avait une mésestime de soi, on pouvait plus se considérer en tant qu'être humain. Et donc, la problématique, c'est l'hygiène. Donc, c'était, ça sentait pas bon. Enfin, bref, c'était pas du tout l'univers dans lequel je voulais aller. Mais ça a été ma première, en tout cas, entente sur le sujet. Et lorsque je refais un bond, dans le temps, lorsque j'ai eu mon BTS et que, effectivement, le stage commençait à arriver à sa fin, j'ai achevé mes parents en leur disant que, voilà, je savais enfin ce que je voulais faire et que j'allais partir à Paris faire une école de maquillage. Alors, j'ai la grande chance d'avoir été accompagnée dans tous mes choix par mes parents. Je suis fille unique, ça aide. Donc, c'est vrai que mes parents m'ont donné les moyens donc, de venir à la capitale. Et ça, c'est en 97, donc ça fera 21 ans cette année. Et, en fait, je ne suis jamais redescendue. Et j'ai commencé mon activité de maquilleuse ici, vraiment dans un désir de devenir l'artiste mondiale internationale et de maquiller que des gens très beaux et de les rendre encore plus beaux et de semer de la paillette et d'être la fée un peu la fée clochette.
Ouais. Et ça a marché ?
Alors oui, ça marche un temps. Ça marche un temps, c'est surtout le temps qui est long à arriver.
Ouais.
Et tu te rends bien compte que oui, derrière les rêves, il y a aussi une réalité qui n'est pas forcément sordide, hein, juste que voilà, elle n'est pas tout à fait à l'image de ce que l'on espérait. Ouais, donc j'ai vivoté, mais juste parce que beaucoup d'orgueil aussi et qu'il était hors de question que je rentre la queue entre les jambes chez moi. Donc, coûte que coûte, j'ai vaillant et je suis passée par différentes étapes. Alors, je me suis retrouvée à maquiller et ça a été aussi une grande expérience pour moi. J'ai beaucoup pleuré à maquiller aux Galeries Lafayette. Et du coup, je suis restée quelques mois, voire années, là, à me morfondre sur dans quelle étagère, entre l'escalator et les toilettes et les collants Woolford. Et je me suis dit non, mais c'est pas tout à fait là non plus que je me vois. J'adore ce que je fais, mais pas tant que ça, en fait. Et puis, les rencontres parmi la cliente. Il y a toujours la cliente parmi les gens avec lesquels tu travailles. En fait, je dois beaucoup à un jeune garçon qui est plus très jeune aujourd'hui. Il va m'en vouloir s'il m'entend, mais qui doit approximativement avoir mon âge. On s'est connus, on avait donc la vingtaine. C'était un jeune photographe sans le sou, une maquilleuse, moi, sans produit, sans le sou non plus. Et en fait, on a grandi ensemble. Aujourd'hui, c'est un grand photographe de mode et on s'est jamais quitté. On a commencé avec la lampe torche du jardin et moi, le fond de teint qui devait faire pour toutes les peaux. Et c'est vrai que ça fait partie des belles histoires aussi. Et puis après, il y a des choses qui se sont enchaînées, des rencontres, des voyages. Je suis partie au Japon et je commençais à m'intéresser un peu aux beautés ethniques aussi. J'ai bossé là-bas, je suis revenue. J'ai eu la chance d'être en tout cas dans une école où j'ai fait ma formation, qui avait gardé mes contacts. Et donc, qui m'a recontactée pour faire un remplacement, en fait, d'un prof technique. Comme j'étais sortie major de ma promotion, j'ai dit, il faut le placer. Et du coup, j'ai enseigné pendant 14 ans. Et tout va commencer là, ce rapprochement avec ce que je fais aujourd'hui, parce que, en tant qu'élève, j'ai eu la grande chance d'avoir Alain Barthélémy, un prof extraordinaire, l'artiste, mais torturé, comme on peut en avoir des fois dans sa vie d'étudiant. C'est un homme qui a consacré justement les dernières années de sa vie au maquillage correcteur et qui a ouvert donc le premier atelier de maquillage correcteur sur la Roche-Posay. Et il était maquilleur de cinéma.
D'accord.
Et j'avais déjà eu cette première approche avec lui parce que je devais faire des effets spéciaux, je devais faire des brûlés. Et en fait, il était désespéré puisqu'on faisait des effets spéciaux, on n'avait jamais vu de mort, on n'avait jamais vu de brûlure.
Ouais.
Et en fait, il m'a amené à la Roche-Posay la première fois. Et là, je suis arrivée. Et je me suis dit définitivement, no way, je ne reviendrai plus jamais ici.
Parce que c'était trop dur.
C'était trop dur. Et puis encore une fois, tu as une vision. C'est très compliqué d'être à l'aise avec le pas beau, entre guillemets. Quand je dis le pas beau, on n'est pas préparé à ça. Un plat qui n'est pas beau, on n'a pas envie de le manger. Une feuille qui n'est pas propre, on n'a pas envie de dessiner. Un livre qui est taché, on n'a pas envie de le lire. Et un visage qui n'est pas beau, on n'a pas envie de maquiller, quoi. Et c'est très cruel. Et je pense qu'il faut beaucoup d'humilité, et ça, on l'a pas tout de suite, en fait. Même à l'école, on l'apprend pas. La vie t'apprend à l'avoir, mais c'est la souffrance, en fait, qui te rend humble. Et je pense qu'il faut être prêt à un moment donné à se dire, voilà, il faut que tu ailles au-delà de ça, arrête d'être cet artiste narcissique, parce que c'est quand même la définition de l'artiste. On fait des choses pour susciter une émotion, bonne ou mauvaise, mais en tout cas, elle est là pour nous servir, quoi. Et j'avais pas encore ça. Il a fallu qu'il se passe donc que je règle moi aussi des problèmes. Et en très touchée aussi, parce que c'est le lien finalement avec ce que je fais aujourd'hui, par mon papa. Alors mon papa, bon, il est parti il y a 3 ans, touchée par un psoriasis. Pas banal justement, parce que ça touche tout le corps, et j'ai assisté à sa descente aux enfers en fait. L'éviction sociale, le statut d'homme qui part aussi, en lambeaux, c'est le cas de le dire. Cette souffrance en fait intérieure en fait. Sur un homme en plus, donc pas les mêmes moyens, les mêmes outils. Et du coup, difficile d'être témoin en fait de ce que l'image et ce que la peau être mal dans sa peau, ce que ça peut entraîner derrière en fait. Donc je pense que ça finalement, c'est peut-être mon fond de commerce. Secrètement, c'est ce qui m'a déterminée aussi à faire des choix. Et donc j'ai enseigné pendant plusieurs années dans cette école et j'avais instauré le maquillage correcteur à l'école, non pas à titre de formation, parce qu'à l'époque c'était pas tout à fait encore. On n'en parlait pas autant. On maquillait un petit peu comme on maquillait, si vous voulez, les stars des années 80. C'est-à-dire le maquillage correcteur était à visée esthétique et non pas dans l'accompagnement, ce qui est la différence qu'on pourrait faire aujourd'hui. On avait une obligation de résultat et on utilisait les mêmes techniques et les mêmes produits avec des pathologies parfois différentes. Voilà, l'objectif, c'était de créer un masque social. Et c'est vrai que moi, j'avais du coup instauré ça parce que pour moi, c'était important aussi de se dire que on a des fibres, on a chacun un fil d'or à tirer. Et une belle corde à mettre à son arc. On n'est pas forcément obligé de maquiller des stars pour être quelqu'un de bien. On n'est pas obligé de faire des grandes choses pour se sentir grand. Mais on peut faire des choses très simplement avec ses doigts et changer la face du monde à ses yeux, en tous les cas. Et donc, c'est vrai que j'ai continué dans ce sens. Alain Barthélémy est décédé d'un cancer, malheureusement, en 2000. Et c'est Monique Buisson, qui est une autre personne très influente dans ma vie, qui a pris son relais. Et qui m'a transmis un savoir énorme et surtout qui a cru en moi. Et il y a 7 ans de ça, en fait, quand je me suis accomplie sur des choses que j'avais à régler, de très personnelles, mais finalement qui correspondent à beaucoup de femmes. Je deviens maman, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Donc un combat à mener avant de me sentir totalement généreuse. Il fallait que déjà je reçoive quelque chose, en fait.
Bien sûr.
Et je suis d'avis qu'on donne et on reçoit, c'est... Ça ouais. peut pas être dans un sens. Donc,
c'est un équilibre.
Pour avoir envie de donner, il faut aussi s'être rempli et soi-même avoir mis de côté tous ces démons, quoi. Et il a fallu en fait, que j'arrive à 35 ans, 36 ans pour que ça arrive. Et là, d'un coup, les choses s'éclairent. Je me dis, c'est clair, il faut que je fasse quelque chose d'autre. J'ai envie de faire. J'adore l'enseignement. J'ai adoré ce que j'ai épuisé, mais je pense qu'il faut que je passe à autre chose maintenant. Et Monique Buisson est revenue vers moi. Elle m'a dit, Karine, je crois qu'aujourd'hui, t'es prête. Est-ce que tu te sentirais pas de venir prendre le relais de ce qu'a transmis Alain, de ce qu'il m'a transmis et de ce que moi je dois te transmettre aujourd'hui, parce que je dois partir à la retraite. Mais à l'âge, c'est l'âge que j'ai, je pourrais encore continuer très longtemps, mais il faut savoir s'arrêter aussi. Et elle me dit, voilà, j'envisage de partir de La Roche-Posay, de cet atelier qui a pris forme en 93, qui prend en charge le confort et l'image, et surtout la prise en charge globale du patient. Elle me dit, c'est une boîte de Pandore en fait. Elle me dit, tu peux pas la remettre à n'importe qui, tu peux pas laisser les gens avec qui t'as commencé un voyage, un chemin. Et elle dit, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le remette à quelqu'un. Et elle me dit, je crois que t'es prête. Et j'avais 36 ans, je me suis dit, voilà, j'ai mis tous les patchworks, tous ces bouts de vie là. Je dis, mais c'est fou, je fais tout ce que j'ai dit, je me revois encore. Quand je travaillais au CAT, là, je me suis dit, mais jamais plus quoi. Les femmes. Qui avait fait des infanticides, j'ai dit ça, je peux pas maquiller la monstruosité, c'est pas possible. C'est Brûlé que j'ai revu à l'atelier, je dis mais si, voilà, mon père, plein de choses. Et là, je me suis dit, voilà, en fait, c'est ça, le secret, il est là. J'ai fait tout ça pour ça. Et j'ai la grande chance, ben, je pense, d'avoir osé aussi. On parle aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme, mais je pense que c'est pas parce qu'on aime le rose, comme je dis, qu'on doit pas oser. D'ailleurs, c'est l'anagramme, ça me fait beaucoup rire. En fait, il faut oser se faire confiance, oser s'écouter. Et c'est ce que j'ai fait, mais tardivement. Il n'est jamais trop tard.
Non.
Et puis, ben, donc aujourd'hui, je suis à l'atelier de maquillage correcteur de La Roche-Posay. Donc, dans cet endroit où il y a 20 ans, je dis je n'irai plus jamais. Aujourd'hui, je ne me vois pas en partir. J'y suis très peu de temps parce que concrètement, j'ai rejoint en fait une structure qui s'appelle Aqualibre. C'est une association de soins de support qui est présente sous la station thermale et qui a 2 mécènes en fait. La station thermale, et le laboratoire où je posais. En fait, ce sont deux entités qui se sont rencontrées sur un même terrain dermatologique.
D'accord.
Ce qu'Alain avait réussi à faire, voilà, c'était à réunifier ces deux camps en se disant, voilà, on a un combat commun, vous utilisez la même chose, est-ce qu'on peut pas créer des choses? Et on a commencé avec le maquillage correcteur pour les brûlés, à se rendre compte qu'il y avait quand même un grand, grand, gros travail à faire, et notamment celui-ci, c'était de rendre les techniques de maquillage dans un premier temps aussi accessibles, de privilégier l'automaquillage, parce qu'améliorer un quotidien de vie, une qualité de vie, c'est rendre les choses accessibles.
Bien sûr.
Quand on dit accessible, c'est pas qu'uniquement au niveau de la technique, c'est au niveau financier aussi. On a des gens qui sont souvent marginalisés, et trop de maquilleurs, et moi la première, avons utilisé trop de produits et on les a perdus en cours de route dès le début, parce qu'avoir 4 fonds de teint pour faire
c'est
un teint, c'est pas possible.
Ils s'en rachèteraient pas eux-mêmes, quoi.
Des produits aussi qui n'étaient pas adaptés et pas dédiés aux lésions cutanées, aux pathologies, donc blindés de parfums, de parabènes, pas contrôlés en nickel. En fait, tout ce qui sortait des années 80, qui était très vendeur, et dont moi-même j'ai été sensibilisée. Encore en mémoire, ces rouges à lèvres qu'on mettait, ils étaient verts, et puis ça faisait rose après. C'était blindé de produits conservateurs, toxiques, mais on adorait ça. L'odeur du patchouli, tout ce qui est plus synthétique. Et effectivement, on utilisait le même produit et ça fait des ravages. Et surtout, en fait, la mission que je me suis donnée en rejoignant cette association, c'est de me dire, voilà, ta mission, c'est le constat, c'est quoi? C'est ce qu'on fait pas, c'est-à-dire la bienveillance. Et le maquillage correcteur, si tu l'exerces avec malveillance, ce qui est très facile, hein, la malveillance, elle nous cueille tous les matins quand on se lève, au premier regard dans le miroir, la malveillance, quand on est mal dans sa peau, c'est la première qui nous ouvre les bras, en fait. Et cette malveillance, si c'est le point de départ du maquillage et de l'image en tant que telle, elle va stigmatiser. Et en fait, ce constat, il est là, c'est que plus tu cherches à cacher, plus tu cherches à camoufler, plus tu donnes une indication au regard de l'autre pour venir t'agresser, en fait. Mais ce qui est très douloureux, mais ce constat, il est assez long, parce que j'ai quand même étudié, je me suis servie de mon expérience personnelle, je suis quelqu'un de rond, j'ai de l'embonpoint, j'ai tout, en tout cas, la surcharge pondérale est là, et je me suis dit, pourquoi je me suis jamais sentie mal dans ma peau, en fait, quelque part? Pourquoi? Quelle est... Parce que je pense qu'à un moment donné aussi, on n'est pas tous égaux aussi sur ça. Hein. C'est l'environnement, la façon dont tu as été éduqué. En tout cas, moi, on m'a toujours appris à regarder le meilleur de... D'ailleurs, chez les autres aussi, c'est une forme de naïveté qui peut être préjudiciable. Je m'en fous. Si ça m'a rendue malheureuse à un moment donné, je passais à autre chose. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est peut-être un privilège que j'ai d'arriver à être bienveillante, de récupérer cette bienveillance. Et en fait, je me suis dit ça, mais elle est naturelle, cette bienveillance. Donc peut-être que je peux la transmettre. Et comment est-ce que tu peux aider les gens, finalement? C'est pas de regarder toujours là où ils ont mal, ils savent qu'ils ont mal. Quand tu te sens moche, que t'as les yeux de travers ou t'as des boutons, pourquoi je vais les lui rappeler? Elle sait pourquoi elle est là. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Finalement, c'est de l'aider, ou pour lui, parce que ça aussi, c'est important, on en parlera un peu mais après. Mais qu'est-ce que moi, je peux lui apporter, au-delà de ma technicité? Parce que ça, j'ai appris, donc tant mieux, je sais le faire. Et encore, pas toujours, parce que... On verra que face à la douleur et la souffrance, on peut pas. C'est pas une théorie, en fait. Hein. On n'est pas sur de la théorie, en théorie. Les jeux de couleurs, tout ça, c'est pas de la théorie. Et donc cette bienveillance, en fait, le plus simple, pour que ça soit accessible, que les gens retrouvent le goût à la vie, qu'ils puissent intégrer ces techniques dans un quotidien et non pas aménager le quotidien par rapport à cette image. Parce que ça, c'est des choses qui m'ont été reportées justement par des femmes brûlées, hein, qui me disaient, Karine, tu sais, pour aller chercher le pain, il nous arrivait de nous lever à 5h du mat, parce qu'il était impossible de sortir sans le fond de teint, sans le correcteur, sans la poudre, sans le machin, et sans le truc. Elle me dit, on peut mettre 1h30 pour faire un make-up, quoi. Donc ça, on peut pas améliorer la qualité de vie. On peut parler d'amélioration de qualité de vie si ça te prend sur ta vie, quoi.
Bien sûr.
Donc ça, déjà, il fallait qu'on rationalise la technicité, le nombre de produits, qu'on ait des produits dédiés, enfin, qui puissent adhérer à de la cicatrice sans créer un masque du musée Grévin, parce que ça aussi, c'était le deuxième effet qui se coule, des maquillages hyper épais. Et aujourd'hui, on parle d'éviction sociale, mais du coup, on veut éviter ça. Et la première chose que l'on fait, quand on va à une soirée, on se déguise, ça nous permet d'être quelqu'un d'autre. Mais on sait qu'on va l'enlever, ce masque, donc on n'en est pas prisonnier. Sauf que là, c'est un masque qu'on te colle en mettant ton étiquette de vie au quotidien, et il faut que tu composes avec. Alors, composer avec, c'est pas le problème, c'est composer sans qui devient... Et l'épreuve du démaquillage, elle est vraiment terrifiante. Parce que ces femmes, je les entends me raconter, Karine, quand on est devant le miroir et qu'on se démaquille, on se voit réapparaître, je visualise vraiment le mime Marceau, en fait, qui est en train... Le clown triste, le clown blanc, en fait, en train de se démaquiller. Et d'un coup, il réapparaît, sa vie, elle devient pathétique, en fait. Et elle est pathétique parce qu'on l'a rendue pathétique et le maquillage est devenu un outil pour ça. Et ça, c'est vraiment important aussi qu'on ait plus ces effets collatéraux et qu'on aide les gens à se sentir mieux Et
sans les transformer pour autant.
Et... voilà, en fait, c'est améliorer. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, mon combat, c'est de radier certains mots. Moi, je camoufle plus. J'atténue, j'estompe. Je cache plus, j'améliore. Et ça, c'est aussi une façon d'être bienveillant. Parce que du coup, vous allez voir que les mots qu'on utilise sur, pour soi ont toujours une influence sur la quantité de matière qu'on utilise. Et quand tu te caches, tu masques. Ça parle tout seul. Par contre, l'idée de d'intégrer dans un ensemble un défaut, la bienveillance voudrait que ce défaut n'en fasse une singularité, ni on la rende omniprésente, ni la dénier, mais vivre avec, en lui donnant sa juste place de virgule dans une phrase, en fait. Ni être la majuscule, ni être le point final. Et le maquillage correcteur, pendant longtemps, en fait, il venait mettre l'accent sur ce qu'on a de pire. Donc les femmes et les hommes ne prenaient pas de plaisir, et du coup, bah, ça prenait beaucoup de temps. Donc, pour rationaliser tout ça, gagner du temps, moins de produits, travailler sur des produits qui soient dédiés, qui permettent d'aller vite, que ce soit des produits qui soignent aussi en même temps et qui ne viennent pas aussi s'interférer aux traitements médicaux. On le verra aussi avec l'oncologie, c'est hyper important. Et qui puissent, tout simplement, par sa simplicité, redonner le goût à la vie, quoi, et se regarder enfin ce soir dans le miroir. C'est ça, en fait, l'objectif. Et c'est aujourd'hui mon activité. Finalement, c'est le plus dur pour moi, c'était retourner à l'essentiel, en fait. L'essentiel... qui je suis, qu'est-ce que je fais? Non, je suis pas Wonder Woman, je fais pas de la magie, en fait. Je te vends de l'illusion, ça, c'est sûr. Le maquillage, c'est de l'illusion, mais ça n'a rien de magique. C'est bien réel. C'est parce que c'est réel que c'est accessible aussi. Et c'est parce que c'est accessible qu'on voit bien que les gens, quand ils sont dans cette dynamique, le goût à la vie reprend ses droits très vite et c'est vraiment lié à très peu de choses. Donc moi, ce que je fais, c'est que voilà, je dis le maquillage c'est une chose, mais finalement, pour parler jardinage, c'est un moyen en fait de se retourner vers soi-même, de dire ok, j'ai peut-être une sale gueule aujourd'hui, j'ai un œil de travers. C'est vrai, le maquillage va pas m'aider. Par contre, j'ai une jolie bouche, j'ai un joli teint, j'ai une cicatrice, c'est mon histoire. Et finalement, on apprend aux gens à faire de leurs défauts une singularité, quoi, et vivre au mieux. Et ne pas surtout s'asservir, s'assujettir à du maquillage, parce que c'est aujourd'hui on veut plus ça. Avoir des problèmes de peau, c'est plus une fatalité. Avoir des accidents de la vie aujourd'hui n'empêche pas d'être fun, et c'est le gros travail aussi de la dermocosmétique, ce vers quoi je me suis tournée, des nouveaux outils en fait, des outils dédiés à la pathologie.
Ça doit être assez extraordinaire quand même de quand tu arrives justement à montrer à quelqu'un dont le visage a été abîmé que cette personne a encore quelque chose de beau dans ce visage et à lui montrer le beau dans ce visage. Ça doit être assez magique, non,
c'est assez magique parce que finalement on se rend compte qu'on est jamais si loin de soi, en fait. On est juste enfoui sous ce qu'on a envie d'y voir aussi, parce que je dis toujours, il n'y a pas que des bourreaux, il n'y a pas que des victimes. Il y a toujours un moment, demande-toi pourquoi les gens te disent que tu es grosse, ou demande pas pourquoi les gens... Est-ce que toi-même, tu n'es pas en train d'écrire ce message? Parce que toi-même, tu te le dis. Donc, se maquiller, se coiffer, s'habiller, c'est des choses qui sont complètement en cohésion, et elles dépendent de la première pensée. L'une et l'autre ne sont pas... Et l'image vient, en fait, synthétiser tout ça. Et si tu te regardes mal, que tu ne te supportes pas et que tu te parles mal, j'ai pas mal de copines, des fois, qui me disent « la gueule que j'ai !» Rien que ça, tu sais que tu vas te transformer en gueule, quoi. Et du coup, tu vas avoir une sale gueule toute la journée. Et les gens vont te le montrer. T'as l'air fatiguée. Alors évidemment, il y a des gens qui manquent de tact, hein, ça. Des gens cons, il y en aura toujours. Hein. Mais en même temps, il y a des gens aussi qui disent vrai. Et moi, j'ai choisi des fois de m'occuper de ça en me disant, mais pourquoi est-ce qu'on me dit sans arrêt que j'ai grossi? Il n'y a pas un truc? Bah si, t'es habillée comme un sac. Donc ouais, il n'y a pas de hasard, tu vois. Ouais, elle est trop maquillée. Bah oui, elle est trop maquillée. Un truc typique en onco. Mon gros combat aujourd'hui en oncologie. Une fois sur deux, on se dit qu'une femme, elle a un cancer. Pourquoi? Alors, on va dire, peut-être parce qu'elle a une prothèse. Ok.
Parce qu'elle a perdu ses cheveux, peut-être.
Surtout, une fois sur deux, les sourcils sont dessinés comme Beyoncé en concert.
On est d'accord. Oui, parce que Beyoncé en concert. Pour les gens qui ne savent pas, lorsqu'on a une chimiothérapie, il n'y a pas que les cheveux qui tombent, les sourcils et les cils aussi. Et donc, c'est là-dessus que toi, tu interviens.
Mais oui.
Hein. Effectivement, parfois, c'est fait un petit peu de manière assez...
extravagante, parce que le fait est, c'est que le visage fatigué ne supporte pas l'excès. Et que, encore une fois, on a pris les choses à l'envers. Et moi-même, hein, je critique parce que je m'auto-critique. J'ai eu une expérience très négative. Hein. La première fois que j'ai eu entre les mains une personne brûlée, sur 90% du corps et du visage, il ne restait pas grand-chose. Quand elle a été mise entre mes mains, j'ai vu tout ce qu'il y avait de pire. Et le pire, c'était pas ce qu'elle me montrait. C'est que, en fait, j'ai maquillé dans mes projections. J'ai maquillé mon angoisse. J'ai maquillé, j'ai maquillé, j'ai maquillé. J'ai mis toute la gamme La Roche-Posay. J'ai mis une heure et demie. J'étais génialement satisfaite de ce que j'avais fait. On voyait plus que deux trous de nez. Ouais. Je me suis dit, quand la classe à Dallas, je suis forte, je suis moi. Talent. Ouais, et là, en fait, elle est devant le miroir et elle dit rien. Toi, t'entends la hola, en fait. À un moment donné, tu te dis, Patrick Voigt de La Roche-Posay, c'est moi. Il se passe rien. Elle te dit, c'est bien. Et là, tu dis, quoi, c'est bien?
C'est génial.
Mais je suis fantastique. On voit que deux trous de nez. Attends, on voit plus rien. Ah ouais, on voyait plus rien, ouais. Et là, elle me dit, je sais pas si je vais oser sortir comme ça. Oh, j'ai pris une blessure, ouais. Mais narcissique incroyable, tellement cruelle qu'à l'instant T, je me souviens encore ce que j'ai pu dire. Alors, excusez-moi, je vais heurter des oreilles et des sensibilités, mais je me souviens parce qu'il faut pas se leurrer, hein, on est être humain, on a des défauts, j'en ai, je les travaille, c'est tout. Mais c'est vrai que j'étais tellement blessée, je me dis, mais dis donc, elle exagère, elle est en train de me dire qu'elle sortirait pas comme ça. Superbement maquillée par mes soins, alors qu'il y a deux secondes, c'était pas terrible quand même. C'est ce que je me suis dit, avec des mots plus violents. Et en fait, en 5-7, elle a pris le démaquillant, elle s'est démaquillée. Et là, je savais pas, j'étais mal, mais j'étais mal parce que, vexée, certes, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait à cette femme en fait? Elle vient pour se sentir mieux, et elle se sent encore pire. Que pire! En fait, j'ai mis deux secondes hein, pour comprendre quel était mon rôle. Déjà, rester à ma place. La première chose, la star, c'est pas là où j'allais la faire. Parce que devant la maladie et l'humilité, il n'y a que celui qui combat hein, qui a le droit d'être en haut de l'échelle. Hein. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, je me suis dit, mais effectivement, on ne voit plus rien. J'avais déshumanisé. Une cire du musée Grévin. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend aujourd'hui? Non. Mais le pire dans tout ça, c'est l'écoute. À aucun moment... Je lui ai posé une question sur qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a des habitudes, comment elle se voit, comment elle se verrait. Parce que si j'ai posé juste cette question, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce que vous attendez pour moi, elle m'aurait dit que ça fait 30 ans qu'elle vient à la cure, que ça fait 45 ans qu'elle est brûlée, et autant qu'elle est passée à autre chose et qu'elle venait voir s'il n'y avait pas des baby crèmes. Et que c'est quelqu'un qui ne se maquillait pas. Donc, c'était important aussi.
Ouais, cette anecdote, elle dit beaucoup.
Elle est très forte parce que ça a déterminé en fait tout le travail et tout ce que j'ai pu monter avec... je suis pas seule. Hein. Il y a Sabine qui est à l'atelier, qui elle travaille au quotidien là-bas et qui fait beaucoup. Mais en tout cas, effectivement, ça m'a pris conscience sur les choses sur lesquelles il fallait qu'on travaille. Ça voulait dire minimiser le nombre de produits. Un maquillage qui doit être fait entre 5 et 10 minutes. On en était loin. Qu'il soit après des produits qui soient effectivement accessibles, des produits qui respectent l'innocuité. Pas se faire non plus pourrir par les dermatologues, ce qui était normal aussi, et les oncologues en l'occurrence, dans d'autres secteurs. Et puis surtout, hyper important aussi, on n'en a pas encore parlé, mais pour moi, j'ai été confrontée aussi à une problématique auquel on ne s'occupait pas vraiment, c'est que le maquillage correcteur, c'est girly dans la tête des gens. Mais moi j'ai des enfants, j'ai des parents qui m'amènent des enfants, 3-4 ans, parce qu'ils ont été brûlés et qu'ils ont besoin d'être rassurés. Mais je ne vais pas maquiller un enfant de 3 ans en...
Comment maquiller une femme?
C'est ça. J'ai des hommes qui ont perdu pied, des chefs d'entreprise, des militaires qui ont été brûlés à l'acide, des personnes électriciens qui ont laissé leurs bras, leurs jambes, qui ont des histoires de vie. Je pense à Olivier, par exemple, ce monsieur-là que j'ai eu, qui venait assister à mes conférences, en fait, à La Roche-Posay. Et c'était le seul garçon. Et les hommes sont assez timides par rapport à ça. Les femmes, on a assez... en fait, on a une capacité incroyable. J'adore les femmes, mais telles que nous soyons, dans la classe sociale, n'importe quel job, c'est peut-être la journée pour dire ça, mais on reste des femmes dans toute notre splendeur, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi, la vie nous donne des lourdes tâches. C'est pour ça qu'elle nous rend légères sous d'autres choses. C'est pour créer cet équilibre parfait d'être incroyable que nous sommes. Et je me suis posé la question pourquoi on avait très peu d'hommes en fait, parce qu'on devient très vite invasive avec des questions très girly, et ça je me la corne. Il y avait cet homme, Olivier, très discret, blond, aux yeux bleus, au fond là-bas, et caché ses bras. Et j'avais besoin d'un modèle, je prends toujours un modèle pour mes conférences, pour ponctuer un peu, imager un petit peu ce que je dis. Et là ça me faisait plaisir de prendre un homme. Je me suis dit ça a changé, parce qu'il y en a marre aussi de penser qu'il n'y a que les femmes qui ont pas avec l'estime de soi. C'est faux. Et cet homme est venu, et donc Olivier m'explique, il me dit voilà, j'ai eu les bras greffés. J'ai pris du je ne sais plus combien de volts. Bref, il y a laissé sa peau, canadien. Et là, depuis quelques temps, donc, il était en phase les greffes avaient pris, donc il avait enlevé les compressifs. Et donc, ça veut dire qu'il laissait apparaître des bras avec des connexions très, très abîmées. Et surtout, on voit beaucoup la marbrure. Et en fait, ça a impressionné son garçon, quoi. Il a un petit garçon de 5 ans. Et il était papa isolé, donc il avait son enfant tous les 15 jours. Et il s'est rendu compte qu'il avait perdu contact avec lui, en fait.
Et moi, quand je lui ai maquillé les bras, il a trouvé ça génial, mais voilà, il me dit « je suis pas sûre de le faire ». Et quelques temps après, j'ai reçu un mail d'Olivier qui me dit « j'aurais jamais pensé qu'en fait, cet instant T-là, où tu m'as dit « bah, tu veux servir de modèle », il me dit « j'ai hésité un quart de seconde », mais en fait, ça m'amusait bien ». Il me dit « j'aurais jamais pensé que ma vie allait basculer grâce à ce moment ». Il me dit « je me suis rappelé de ce que tu m'avais dit ». Et il me dit « comme je pouvais plus embrasser mon fils, mon fils avait peur de mes bras, il pouvait plus avoir de câlins, plus rien, c'était terrifiant ». Comme quoi, à quel point l'estime, ça touche quand même. C'est fou, le rapport à l'autre. À son enfant, hein. Son enfant de 5 ans qui voit les bras de papa, il peut plus. Et là, en fait, il maquille les bras. Il se rappelle qu'il faut 3 bricoles, hein. Un truc de thermal, un correcteur dédié, hop, en 5-7. Et en fait, pendant toute la phase d'été où il a les t-shirts et tout, il a pris le temps de se maquiller. Il m'a dit, c'est vrai qu'au début, ça m'a pris un peu de temps. J'étais maladroit, je n'aimais pas trop la texture. Puis il me dit, j'ai fini avec prendre goût parce qu'elle va super vite quand tu maîtrises le truc. Il me dit, ça m'a même apaisée, je me suis moins grattée du coup, parce que je savais que mes bras étaient maquillés. Il dit, j'ai eu une amélioration de la cicatrice. J'ai repris contact avec moi, en me touchant en fait. Et il me dit, tout naturellement, en fait, mon fils est revenu me serrer dans les bras. Et je me dis, merde alors, c'est que du maquillage correcteur. Et en fait, c'est ça que ça corrige. C'est le regard qu'on se porte. Et c'est pas des choses incroyables. C'est pas prendre beaucoup de matière. C'est pas ressembler à un tableau de Van Gogh. C'est juste, à un moment donné, savoir... retrouver cette bienveillance et te dire voilà, ça va te prendre très peu de temps, mais ça va changer ta vie quoi. Et en fait, c'est que ça. Et du coup, c'est une vraie drogue. Parce que moi qui vais 4 jours à La Roche-Posay par mois, quand j'y suis pas, je suis en manque. Tellement que maintenant, du coup, je me sens obligée de venir un peu partout. Parce que c'est une vraie drogue. Et d'un coup, je rejoins la position. Maintenant, je suis un artisan en fait. J'ai basculé. Je travaille avec mes mains, je sème avec mes mains, je récolte avec mes mains. Je suis plus un artiste comme j'ai voulu être. C'est vraiment la différence. Et attention, je ne suis pas en train de salir le statut d'artiste, c'est pas ça. J'y place une autre jouissance, en fait. L'artiste, il va jouir de sa production, mais elle est directe, cette jouissance, il faut la recevoir. C'est quelque chose qui est très fort aussi. Hein. Moi, j'en ai besoin, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui toujours mon activité. J'ai besoin de strass et de paillettes. Hein. Elle est nécessaire, cette partie. Mais elle me renforce, justement, pour pouvoir poser les yeux sur des choses qui sont moins brillantes, en fait, et qui ont besoin de jaillir de la lumière, en fait. Et voilà, je suis tombée dans l'artisanat en fait. Et je crois que la vraie jouissance, elle est là. C'est qu'en fait, j'ai appris à jouir de mon savoir-faire par l'autre.
Par l'autre.
Et en fait, au travers de lui, je reçois moi aussi cette lumière. Et c'est fou, hein, ces gens, ce que je dis toujours, hein, tous ces gens que je rencontre, hein, que ce soit des personnes volées, la cancéro, des hommes, des femmes, des enfants, ils me remercient toujours de cette rencontre où on a pu, autour d'une demi-heure, une heure, échanger sur. Mais je suis pas sûre que chacun sache ce que eux, en tant qu'individu, ils m'ont permis de faire dans ma propre vie, en fait. Accompagner des gens, savoir à quel point la dignité, même jusqu'à la dernière seconde, elle est importante. Je pense à Marjorie, là, tout de suite, c'est ma meilleure amie. Elle est décédée à 36 ans des suites d'un cancer. Ça fera 6 ans au mois d'avril. Elle laisse une petite fille de 3 ans. Je sais pas si j'avais pas rencontré toutes ces femmes, si j'aurais pu être avec elle et lui faire les ongles jusqu'à la dernière seconde et... Parce que même la mort, elle a besoin d'être belle, quoi. Et moi, je suis maquilleuse, je suis pas socio-esthétique et je flirte avec la socio, mais je suis très précautionneuse de chaque pierre portée à l'édifice. C'est des femmes qui font un travail extraordinaire. Hein. La socio-esthétique, on en parle enfin, ça existe depuis longtemps. Elles accompagnent vraiment ces patients. Et moi, je vois, hein, parce que moi, j'accueille souvent les gens en cure, donc après les traitements, ou en tout cas sur des chronicités pendant la durée de leur vie, en tout cas. Mais je vois bien, en fait, toutes ces personnes qui ont été accompagnées aujourd'hui. Puis il n'y a pas que ça. Hein. Le maquillage, c'est juste une petite pointe à l'édifice. Mais il y a toutes ces activités qui tournent. La psychologie, les groupes de parole, les soutiens. Il y a de plus en plus d'assos. On parle de tout ça maintenant. Et même les médecins sont très demandeurs. Les oncologues aussi. Ils ont reconnu aussi qu'aujourd'hui, les soins de support font une grosse part du gâteau sur l'optimisation des résultats et sur le moral. Donc ouais, c'est une belle histoire.
C'est une belle histoire et en tout cas, tu as trouvé ta voie.
Ouais, en tout cas, je pense que elle m'a donné les pistes pour ce que je ferai dans la prochaine, ça c'est sûr.
Merci beaucoup, Karine.
Merci beaucoup, Caroline.